l'origine de la panique, il y a toujours des sons, des bruits, des mots peut-être, des notes de musique. Ce sont ceux du dieu Pan qui résonnent dans les montagnes et dans les vallées, qui disséminent la peur comme une traînée de poudre ou comme une rumeur, parmi les nymphes, parmi les hommes, parmi les troupeaux. C'est un adjectif panique pour qualifier la terreur. Ça lui donne, c'est important, une dimension collective et irraisonnée à la peur. Ça veut dire que la panique, on a beau y résister, prouver qu'elle n'a aucun sens, elle peut quand même nous rattraper, elle nous affecte toutes et tous, peut-être plus profondément qu'on ne veut bien se l'avouer. Étrangement, on la trouve la panique dans des traités militaires de la Grèce ancienne, et elle ressemble à une stratégie militaire. C'est une façon de retourner les guerriers contre eux-mêmes. Il suffit d'un bruit, d'un écho pour que les soldats ne sachent plus dans quel camp ils sont. Un bruit qui vient de partout et de nulle part, une petite musique qui résonne et qui rend fou, au point qu'on s'entretue. Qu'est-ce qui vous panique, vous ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est cinéaste. Souvenez-vous de L'Inconnu du Lac ou de Rester Vertical, qui avait fait sensation au Festival de Cannes. Son nouveau film, Viens, je t'emmène, s'est fait remarquer au fameux Festival de Berlin et sortira la semaine prochaine. C'est une histoire de désir entre une prostituée et un monsieur tout le monde sur fond d'attaque terroriste à Clermont-Ferrand. Et figurez-vous que c'est une comédie. Bonjour Alain Guiraudy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, parce que je crois que c'est central dans le film et pour vous, et puis si ça m'intéresse, qu'est-ce qui vous panique, vous ?
Ah, ce qui me panique, non, enfin, ce qui fondamentalement me panique, je pense que c'est un peu plus... Non, les attentats, effectivement, ça a été quelque chose de cet ordre-là, quand même. Ouais, où, ça, je me rappelle même du 11 septembre. Non, je dirais que, enfin, si la panique, c'est la peur, quoi. C'est plus, effectivement, ce gros rouleau compresseur qui est en route et qui fait que... Ben, que les fortunes, que quelques fortunes, grandes fortunes possèdent autant que le reste de l'humanité.
Et quoi. On se laisse submerger par cette panique.
Et, je me laisse submerger, non, parce que tout ça est loin, tout ça finalement reste abstrait, quoi, et je fais partie des gens qui vivent bien, quoi, qui ne subissent pas la misère. Mais quand même, il y a quelque chose d'inéluctable là-dedans, et, d'inéluctable, non, qui n'est pas inéluctable, mais qui a tendance, effectivement, moi, parfois, à m'enterrer. C'est-à-dire, je me dis, waouh, comment je pourrais, comment on va faire pour renverser la tendance, ouais.
Et alors, comment on fait, précisément? Est-ce que le cinéma, ça peut être une arme, justement, ou alors pas du tout?
En tout cas, si c'est une arme, c'est une arme à long terme, quoi. Non, je pense que c'est important même dans la lutte idéologique, la lutte culturelle est hyper importante, quoi. Est-ce que, je veux dire, c'est toujours bien, je pense, de donner à voir le monde d'une façon singulière ou de donner à voir d'autres façons d'envisager les rapports entre les gens, quoi. Voilà.
Parce que qu'est-ce qui se passe, Alain Guiraudy, quand des individus cèdent à la paranoïa? Parce que c'est en partie de ça que parle votre film.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, disons que oui, ça parle même complètement de ça, où on voit un jeune mec appelé On voit un homme plutôt cool appeler quand même la police pour parce qu'il y a un sans-abri en bas de chez lui. Ouais. Je me rappelle plus la question.
Qu'est-ce qui se passe quand on cède à la paranoïa?
Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Enfin, j'imagine que. Quand on cède à la paranoïa, visiblement, c'est un problème de. La paranoïa, ça serait l'inverse du désir, le contraire du désir, quoi. C'est la peur de l'autre qui l'emporte, quoi.
Ouais. Aujourd'hui, par exemple, quand vous constatez que des expressions comme grand remplacement qu'on n'entendait nulle part, sinon dans les cercles restreints de l'extrême droite, sont employées de manière décomplexée dans l'espace public, vous vous dites quoi?
Déjà le film répond quand même pas mal à ça, quoi. Ça je pense que c'est quand même l'essor du grand remplacement, c'est quand même une vieille connerie faite pour détourner les esprits de l'essentiel, quoi. Je pense quand même, quoi, que effectivement on se tourne vers on nous fait nous retourner vers les Arabes pour qu'on s'occupe pas effectivement des grands fauteurs de troubles qui pour moi restent quand même les classes dominantes et les et les grandes fortunes, quoi. Et les privilégiés qui veulent conserver leurs privilèges, quoi. Donc, moi, le grand remplacement, finalement, ça prend pas, quoi. Enfin, on nous fait passer l'immigration même comme un des thèmes majeurs une préoccupation majeure des Français. En fait, je pense pas que ça soit la préoccupation majeure des Français. Peut-être dans certains quartiers. Et encore, quoi, j'en suis même pas sûr. Mais moi, j'ai lu des trucs quand même plus, là, ça vient quand même vachement derrière le pouvoir d'achat, derrière l'emploi. Enfin, la grosse angoisse actuellement, je trouve, enfin, dans les gens que je fréquente, dans le monde que je fréquente, c'est plus, est-ce que mon fils, mon petit-fils aura du boulot, comment est-ce qu'on va vivre? Je pense que la planète, l'avenir de la planète, l'avenir, l'écologie, comment est-ce qu'on fait pour éviter de suffoquer dans 30 ans, dans 50 ans, quoi, comment, ça, c'est une vraie préoccupation. Donc, le grand remplacement, je sais pas, c'est effectivement, ouais, tout au mieux une manie pour pas mal de gens, quoi.
Vous savez, ce qui m'a touché dans votre film, c'est que, en fait, dans vos précédents projets, il n'y avait pas la volonté de vous ancrer dans une époque précise. Alain Guiraudy, alors que T'en viens, je t'emmène, vous assumez pleinement le présent. Ce désir d'aujourd'hui, justement, il est né de quoi?
En fait, moi, j'ai toujours un peu hésité entre tout ça, quoi. C'est-à-dire, je m'intéresse beaucoup à la politique, à l'actualité, à tout ce qui se passe dans le monde, et j'ai envie d'en parler sérieusement, et en même temps, j'ai envie de déconner, j'ai envie de faire des comédies, je me plais dans la fantaisie, j'ai envie de réinventer le monde et le réel, de refaire le monde aussi, avec le cinéma. Et donc, ça s'est entrecroisé, tout ça s'entrecroise finalement toujours un peu, sauf que là, on avait quand même on sortait d'un gros trauma. J'ai commencé l'écriture du scénario à fin 2016. On avait eu les attentats de Charlie Hebdo, le Bataclan, Saint-Denis,
ça veut dire Nice. Ça veut dire que le cinéma, pour vous, c'est aussi filmer ces traumas?
Ouais, c'est important. Enfin, je sais pas. Oui, c'est important. C'est-à-dire, il y a un moment même, je me suis dit, c'est fou. Faudrait quand même qu'on en parle de ce genre de choses. Et puis, surtout quand je vois, par exemple, le sida, on n'en a pas parlé, par exemple. Le cinéma, ça en est très peu emparé.
C'est arrivé tard,
ouais. À part Cyril Collard, quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'ensuite, il a fallu attendre Téchiné 20 ans plus tard avec Les Témoins. Et même moi, j'ai mis du temps à parler de ce genre de choses. Là, je me suis dit, non, je pense que déjà, ça a imprimé fortement nos vies, notre quotidien. Enfin, quand même, il y a eu un moment où on s'est dit, c'était dehors de la panique, où on s'est dit quand même, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, quoi.
Voilà. Mais encore faut-il, Alain Guiraudy, que ça ait un intérêt cinématographique, ce présent.
Alors après, ouais, c'est pas les thèmes les plus sexy qui soient, quoi. Voilà, après, faut se débrouiller, faut se démerder je sais pas si c'est les rendre cinématographiques. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai recours à la comédie, que j'ai recours à une histoire d'amour aussi baignante sur fond d'attentat, quoi, pour m'y affronter, quoi, pour en parler.
Et puis, pour la première fois, vous choisissez de situer votre histoire, j'ai l'impression, exclusivement dans une ville. En l'occurrence, Clermont-Ferrand, ce qui m'a touché, moi, à titre personnel, cette ville qui n'a pas souvent été représentée au cinéma. On peut quand même citer Manu chez Maud de Romère ou La double vie de Véronique de Kieslowski. Qu'est-ce qu'elle raconte pour vous, cette ville, Alain Guiraudy?
Alors c'est une ville, c'est une ville moyenne du centre de la France. Il y a un côté même capitale historique. Vous me direz, on pourrait dire ça de toutes les villes, mais quand même c'est la ville où. Alors même si Clermont-Ferrand n'existait pas à l'époque, mais c'est un peu la ville de Vercingétorix, le plateau de Vercingétorix.
C'est une ville industrielle, ouvrière, les usines Michelin.
C'est une ville noire, sombre, industrielle effectivement. C'est une ville qui est restée très très populaire, c'est sombre et c'est chaleureux. Je trouve qu'il y a un côté très. C'est d'ailleurs moi, c'est en allant à Clermont-Ferrand que j'ai compris la chanson de Georges Brassens, quoi. Voilà le côté chaleureux de l'Auvergnat, quoi, et accueillant de l'Auvergnat. Je la trouve même moi très très cinématographique dans ses différentes strates urbaines, quoi, entre les ruelles tortueuses du centre qui sont pas hyper filmées dans mon film, mais bon. Et puis des belles perspectives sur l'extérieur, des y compris l'architecture qu'on appelle stalinienne de certains bâtiments, de certains quartiers de Clermont-Ferrand.
Est-ce que vous savez, Alain Guiraudy, qu'il y en a une dans cette émission qui est enchantée Clermont-Ferrand candidate au poste de capitale européenne de la culture? C'est évidemment la culture elle-même et son actualité à tendance auvergnat qui est toujours enchantée qu'on parle d'elle. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 24 février? Welcome Home Work, un an jour pour jour après leur séparation. Les Daft Punk ont surpris tout le monde en faisant un retour inattendu sur la toile. Via les réseaux, le duo casqué de la French Touch a posté un concert culte de 1997 et a publié la réédition de son premier album Homework. Sorti il y a 25 ans, l'opus est désormais proposé dans une version deluxe anniversaire sur laquelle on retrouve les morceaux Daft Punk et Around the World, ainsi que 15 remixes dont 9 inédits. Oh oui!
Il y a des bateaux qui sont bizarres. Moi, j'aime bien.
C'est l'un des palmarès les plus prestigieux de la littérature jeunesse internationale. Les Bologna Ragazzi Awards 2022 viennent d'être décernés. Ils font la part belle aux auteurs francophones. 3 Français, 2 Québécois et 1 Suisse ont été sacrés, parmi lesquels on peut citer Gérard Dubois, Noriel Sack, Nathalie Novi. Tous recevront leur prix lors de la Foire du Livre de Jeunesse de Bologne qui ouvre le 21 mars prochain.
C'est lui qui scripte tout.
Et enfin, 0 de conduite sur le site d'Atribis, à 200 km de Louxor en Égypte. Une équipe d'archéologues vient de mettre à jour près de 18 000 pièces de poterie gravées, datant de près de 2000 ans. Sur une centaine d'entre elles, les chercheurs ont découvert des motifs répétitifs qui ont été identifiés comme étant des lignes de punition écrites par les mauvais élèves de l'époque. Cancre un jour, cancre toujours. Voilà un cancre de toujours, Alain Guiraudy, invité de Boomerang ce matin pour la sortie la semaine prochaine de Viens, je t'emmène. Ce film bien moins sombre quand même qu'il n'y paraît, puisqu'il s'agit d'une comédie. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, tiens?
Oh là, qu'est-ce qui... Alors, en fait, je pense que ça a une grande amplitude, quoi. Ça va d'Astérix, voilà. Astérix et les Normands, ouais, ça me fait toujours autant marrer, quoi. ça passe par, des conneries comme Eric et Ramsey me font beaucoup marrer aussi, quoi. H, j'adore. Et puis, il faudrait que je trouve quelque chose d'un peu plus à l'autre bout,
ce sont les plus grands génies de la comédie française, Eric et Ramsey. Vous pouvez faire mieux. Mais quels sont les rouages du rire pour vous qui écrivez une comédie ici? Sur quoi ça repose? Comment on provoque le rire ou le sourire chez le spectateur?
Déjà, je pense qu'il y a... c'est par le second degré, on fait appel, en fait, l'humour, c'est un territoire qu'on essaie de trouver, un territoire de complicité qu'on essaie de trouver avec l'autre. Et je sais pas, c'est marrant, il y a quand même un pari, quoi. On sait jamais si ça va plaire au plus grand nombre. Moi, j'ai été épaté quand j'avais fait pour Du Soleil pour les Gueux de voir que le public se marrait à des endroits que je pensais pas, je voyais pas pourquoi on se marrait là, quoi. Voilà. Donc, dans mes premiers films, ça a été un peu balbutiant. Enfin, un peu balbutiant. Je tentais des choses et je me disais, est-ce qu'on va se retrouver sur ce terrain-là, quoi. Voilà.
C'est toujours un peu ça. J'aime bien cette idée de territoire commun, en fait, autour du rire. D'autant que vous, c'est un cinéaste qui travaillait aussi le cliché, Alain Guiraudy.
Effectivement, merci. Ouais, là, en plus, c'est vraiment sur le cliché, les représentations qu'on se fait d'archétypes sociaux, quoi. Et après, ouais, je joue avec ça, quoi. Voilà. À les renverser. Ou à les conforter parfois, quoi, voilà. Et c'est ça, c'est un fond qu'on partage en commun, quoi, et on joue avec ces choses-là, quoi.
Vous diriez que cette réflexion sur le cliché, elle est aussi au service d'une réflexion plus globale sur l'art de raconter des histoires, en fait, qui surprennent le spectateur, qui déjouent ses certitudes, qui s'amusent avec lui. Vous qui êtes aussi romancier.
Oui, je pense que ça commence avec un jeu avec moi-même, quoi. C'est-à-dire que je me dis, je joue aussi avec mes propres représentations. Par exemple, je me souviens que ce soit le jeune arabe sans abri ou que ce soit même le voisin supposé facho du dessus, quoi.
Ou même la prostituée,
ouais, effectivement. On se fait, J'imagine, c'est pas mal finalement qu'on se fasse des représentations de tout ça, quoi, oui. De prendre des finalement qu'il y ait des archétypes. Et puis, mais en même temps, c'est vachement bien aussi d'aller contre ça, de déstabiliser, je pense, de se déstabiliser soi-même, de déstabiliser le spectateur. Et puis, non, et puis en plus, ce qui me plaît aussi vachement, ce qui me plaisait beaucoup dans l'histoire, c'était le risque, quoi. C'est-à-dire le risque aussi d'aller sur un terrain politiquement pas du tout correct, quoi. Je pense que c'est ce qui plaît d'ailleurs dans le film, c'est aussi le côté, on va quand même parler de sujets d'une façon, je pense avec humour, mais je pense d'une façon douce aussi.
Mais au fond,
des sujets où on a plutôt tendance à s'écharper, quoi, habituellement.
Au fond, le réel, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Le réel. Pff,
c'est un point de départ.
Si on s'embarque dans le... Ouais. Disons que en fait, j'aime bien créer des situations improbables, voilà, et mettre en scène des situations improbables, mais de les rendre possibles, quoi. Voilà. Donc, forcément, la référence au réel, ou en tout cas, l'idée de la cohérence avec le réel, je la perds jamais de vue.
Moi, voilà. Ce qui me frappe, Alain Guiraudy, c'est que souvent, votre réel, il est teinté d'une atmosphère étrangement onirique, presque hallucinée, comme si ce réel, il fallait à tout prix trouver un moyen de lui échapper, aussi.
Disons que je fais beaucoup du cinéma quand même pour réinventer. J'aime bien l'idée de réinventer le réel, voilà, ça serait plutôt ça,
en créant des utopies.
Les utopies, on les crée pas. Les utopies, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais c'est un ailleurs dont chacun a besoin quelque part dans un coin de sa tête pour continuer à vivre.
Puis il y a toujours quelque chose de suspect et de pourri, l'utopie. Ouais. Le trop pur. Le trop beau.
Non, mais même quand on dit les utopies des années 70, c'est fini. Bon, je suis désolé, non, les utopies des années 70, elles sont toujours là, quoi. sauf que dans les années 70, il y avait quelque chose qui nous paraissait possible et qu'on appelait utopie, qu'on appelait à tort utopie, quoi, puisque si c'est l'utopie, c'est que c'est pas possible, quoi. Voilà. Et moi, après, ce qui m'intéresse en faisant du cinéma, ou des bouquins d'ailleurs, ouais, c'est aussi de donner à entrevoir autre chose de possible, quoi. Voilà. Ouais.
Pour autant, quand est-ce que vous avez le sentiment que le réel vous rattrape? Comme une massue?
Le cinéma, on se reprend. Alors, c'est à la fois le truc hyper chiant dans le cinéma et le grand intérêt du cinéma, c'est qu'on se reprend toujours le réel dans la gueule. Ouais. Quoi. C'est-à-dire qu'on a un film fantasmé dans la tête, un film idéal, quoi. Et à chaque coup, ben voilà, c'est quand même, faut des comédiens pour l'incarner. Et les comédiens et les personnages qu'on avait en tête, finalement, on se rend compte qu'ils n'existent pas. Que finalement, même les situations, elles n'existent pas. Faut le faire s'agiter. Faut animer tout ce monde-là, quoi.
Vous savez, c'est passionnant. Parce que j'ai l'impression que votre film, il met en scène ça aussi. Il raconte quand même la manière dont le réel fait irruption dans la vie d'un homme et d'une femme qui viennent de se rencontrer. Cette irruption se fait par le biais d'images diffusées sur une chaîne d'information en continu, alors que vos deux personnages sont en train de faire l'amour. Ces images, bah, c'est quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous, cinéastes? Ces images de chaînes d'infos, Alain Guiraudy.
Surtout, moi, j'ai le souvenir d'avoir... C'est comme ça que j'ai vécu les attentats, quoi, finalement. Je les ai vécus par le prisme, en restant scotché, comme ça, devant des chaînes d'infos, avec des journalistes qui avaient finalement pas grand-chose à nous raconter.
Mais
quoi.
Faire exister ces images dans une image de cinéma, c'est pas innocent, ça.
C'est effectivement... Alors là, on est en plein entre confrontation de la fiction et du réel, et sachant que même, je pense que... trouver sa ville filmée dans la télé, c'est comme, je sais même pas si c'est un gros effet de réel ou justement un gros effet de fiction, quoi. Voilà. Il y a quelque chose d'assez vertigineux dans, l'écran dans l'écran, quand même, il y a toujours un peu une mise en abîme, un vertige qui se crée, quoi.
Alain Guiraudy, dans un monde saturé d'images qui défilent en permanence, d'images qui tournent en boucle, quelle place pour une image de cinéma?
Il y a toujours. Ça continue. Moi je pense que c'est un truc. C'est marrant, je pense que ça continue à être quelque chose de fort. En tout cas en France, quoi. J'ai l'impression qu'on aime toujours aller en salle, on aime toujours se retrouver ensemble devant un film, partager un film. La comédie, c'est quelque chose qui se partage beaucoup, quoi. Ça fonctionne vachement ensemble, quoi. Après, l'image de cinéma, alors, je suis pas non plus. Bon, j'aime beaucoup la salle, quoi. Mais l'image du cinéma, finalement, elle se retrouve aussi sur la télé. GPS se retrouve aussi sur un smartphone. Enfin, à la limite, on arrive
pas la même qualité de lumière, pas la même qualité de cadre, pas la même.
Oui, sauf qu'effectivement, mais enfin, on arrive quand même à avoir un vrai rapport à la fiction quand même, quoi, et à cette image. Après, non, c'est vrai que je continue à préférer la salle, quoi. Mais je sens que de toute façon, moi, depuis que je fais du cinéma, on a toujours eu ce questionnement, c'est-à-dire le cinéma qui se déroulait ailleurs, qui se finançait même ailleurs que par la salle de cinéma. Donc, peut-être que effectivement, j'ai un peu trop intégré cette donnée, quoi. Vous savez, on signe des contrats maintenant, les réalisateurs, dans lesquels on accepte que son film soit coupé. Que même là, le dernier, bon, j'ai pas voulu l'accepter cette clause, mais quand même que le film soit recadré même, voilà. Donc finalement, on commence à avoir appris à s'asseoir sur pas mal de choses. Hein.
On va reparler de s'asseoir, de salle. Écrivez-le comme vous voulez. Juste après France Gall, quand même. Viens, je t'emmène. En 1978, c'est le titre de son film.
Ah, on écoute France
Gall. Ah bah attendez, vous êtes sur France Inter avec Alain Guiraudy, Boomerang.
Toi qui as posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi, la clé d'un monde qui n'existe pas. Viens, je t'emmène où les étoiles trouvent la lune en secret. Viens, je t'emmène où le soleil soit.
On est quelque part entre le leader charismatique, Monsieur Seguin et sa chèvre, et le parrain. Le parrain d'une mafia méridionale, il a le cheveu blanc bouquetin, le regard un brin taiseux, le sourire circonspect, pas du genre à se faire avoir avec son t-shirt un petit peu moulant, le cinéaste Alain Guiraudy, invité de Boomerang pour Viens, je t'emmène au cinéma mercredi, qui raconte, hein, je le disais, ce lien entre un monsieur tout le monde et une prostituée, deux personnages qui se désirent et dont vous filmez les corps. Je me suis demandé, parce qu'il y a vraiment un cinéaste à qui on peut poser cette question, c'est quand même vous. Qu'est-ce que c'est pour vous un corps, Alain Guiraudy?
Alors, encore, ben, je pense, alors, tiens, c'est marrant, on parlait des utopies des années 70, je pense que quand même, elles ont vachement tourné, enfin, ce qu'on appelait les utopies, quand même, ça a vachement tourné autour du corps, autour de la libération du corps, quoi,
j'ai l'impression. De tous les corps.
Et de tous les corps, ouais. Ben, oui, mais d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup ce slogan du Front d'Action homosexuel révolutionnaire qui disait « Prolétaires de tous les pays, caressez-vous ». J'aime bien le ressortir de temps en temps. Et non, même... ouais, allez,
je vous remercie, Alain. Je vous remercie de le dire haut et fort.
Allez se foutre à poil, tout ça, il y avait quelque chose. Donc non, c'est important, mais c'est-à-dire que, bah, comment dirais-je, finalement, on voit très peu, même en parlant du désir, finalement, on voit assez peu de corps. Corps au cinéma, d'autres corps aussi. C'est vrai que les corps du cinéma avaient tendance à être très uniformisés, plutôt jeunes, bien foutus. Voilà.
Pour aller plus loin, pour vous, qui nous dit en fait qui est désirable et qui ne l'est pas?
Ah ben déjà, je pense que personne devrait nous le dire, quoi. Je pense que quand même, je vois encore pas mal de gens qui n'obéissent pas à cette idée-là, quoi, que le désir obéirait à la loi de l'offre et de la demande, ou que des gens seraient désirables et pas et d'autres pas. Et en même temps, oui, il y a des gens qui nous le disent. Ouais, quand on regarde la presse magazine, quand on regarde la télé ou même le cinéma, finalement, depuis, moi je trouve depuis les années 80, je sais pas pourquoi, il me semble que quelque chose s'est perdu à partir des années 70. Mais depuis...
D'ailleurs, finalement... on retrouve dans l'image de votre film un hommage aux années 70.
Finalement, pas mal de... J'ai l'impression que finalement, il y a quand même... Oui, il y a des canons de la beauté officielle qui se dessinent.
Comment s'est construit votre rapport au désir, Alain Guiraudy ?
Oh, ça, moi, ça a été très très compliqué. C'est quelque chose qui a été très très compliqué.
Par des images ?
Ouais. Et par des images, est-ce que c'est par les... Mais finalement non. Si on remonte au tout début, ouais, c'est par des images. C'est même par. Je pense que c'est par des l'art populaire en tant que tel. Ouais, vraiment, c'est la bande dessinée, quoi. Ouais.
Et des images de cinéma.
Et les images de cinéma. Ouais, des images de cinéma que je voyais à la télé. Ouais.
Je pensais à quoi ?
Effectivement. Je pense à un film sur Lucrèce Borgia, mais je pense même à Angélique Marquise des Anges. Hein,
bon, Angélique,
ouais. Et puis, non, puis même les westerns, moi, après, je tripais plus sur, même enfant, sur William Holden que sur Michel Mercier, quoi. Mais je tripais quand même sur Michel Mercier, hein.
Pour autant, vous n'avez jamais délaissé la littérature. Votre dernier livre, Rabalaïr, est sorti en septembre dernier. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'écriture ? Toujours.
Oh, c'est qu'est-ce qui m'a. Ben, l'écriture, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est tout seul et on fait un truc de A à Z tout seul, quoi.
On expérimente aussi.
Ouais, on expérimente. Non, puis on digresse. Il y a vraiment un côté très flânerie littéraire, quoi, dans mon dernier.
Et... On s'en fait une de flânerie littéraire, là, tous les deux.
Voilà.
Ah ben, attendez, on s'en fait une. Mais on s'en fait une avec un extrait d'Ulysse, de James Joyce. Un extrait qui a quelque chose à voir, justement, avec le corps et le désir dont on parlait tout à l'heure. Alain Guiraudy, Joyce, Ulysse.
Alors, quelle belle rangée de dents il avait, ça me donnait faim de les regarder. Et il m'a supplié de retrousser le jupon orange que j'avais avec le plissé soleil. Il disait qu'il n'y avait personne qui se mettrait à genoux dans les flaques si je lui refusais, tellement têtu qu'il l'aurait fait, et son imperméable neuf abîmé. On ne sait jamais ce qui peut les prendre. Quand on est seul avec eux, ils sont enragés après ça. Si quelqu'un était passé, je les retroussais un peu et je les touchais par-dessus son pantalon, comme je l'ai fait à Garner après avec ma main gauche pour l'empêcher de faire pis là où il y avait trop de monde. Je mourais d'envie de savoir s'il était circoncis et il tremblait comme une feuille de la tête aux pieds. Ils veulent toujours faire tout trop vite, ça enlève tout le plaisir. Et père qui attendait son dîner pendant ce temps-là et il m'a dit de dire que j'avais oublié ma bourse chez le boucher et que j'avais dû retourner la chercher, quel maître menteur ensuite. Il m'a écrit cette lettre où il y avait tous ces mots. Comment pouvait-il avoir l'audace à n'importe quelle femme après ses façons d'homme du monde, ce qui a rendu si gênante notre entrevue après, me demandant « Est-ce que je vous ai offensé ?» J'avais les yeux baissés naturellement. Il a bien vu que je ne l'étais pas et il n'était pas bête, comme cet autre imbécile d'Henry Doyle, qui cassait ou déchirait toujours quelque chose pendant les charades. Je déteste l'homme qui a la main malheureuse, et il a demandé si j'avais compris ce que ça voulait dire. Naturellement, j'ai été obligé de dire non pour la forme. J'ai dit je ne vous comprends pas. Et est-ce que ce n'était pas tout naturel? Bien sûr que c'est naturel, mais c'était toujours écrit sur ce mur à Gibraltar avec le dessin de celui d'une femme, et ce mot que je n'ai pu trouver nulle part, si seulement les enfants ne le voyaient pas trop jeune. Après, il écrivait une lettre tous les matins, quelquefois deux par jour. J'aimais sa façon de faire la cour dans ce temps-là. Il savait s'y prendre avec une femme. Et quand il m'a envoyé les 8 gros pavots, parce que je suis né un 8, alors j'ai écrit le soir qu'il a baisé mon cœur à Dolphin's Barnes. Je ne pouvais pas expliquer ce que ça me faisait. Ça vous fait un effet faramineux, mais il n'a jamais su vous prendre dans les bras aussi bien que Garner. J'espère qu'il viendra lundi, comme il a dit, à la même heure. 4 heures. Je déteste ces gens qui arrivent à n'importe quelle heure. Vous allez ouvrir, vous pensez que ce sont les légumes et c'est quelqu'un. Et vous, dans quelle tenue, ou la porte de la cuisine sale, dégoûtante, qui s'ouvre toute seule.
Voilà. Pour ne jamais s'arrêter, cette phrase ininterrompue. Quelle chance quand même d'entendre sur notre service public à une heure de grande écoute une telle splendeur. C'est un extrait d'Ulysse de Joyce dont on célèbre cette année le centenaire et qui est peut-être l'un des plus grands textes jamais écrits. Merci Alain Guiraudy de l'avoir choisi et merci d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Viens, je t'emmène avec Noémie Lovski, Jean-Charles Clichet, Ilyès Kadri, Michel Massiro, Renaud Rutten, Doria Tillier sort mercredi et qu'une grande rétrospective vous sera consacrée à la Cinémathèque à partir du 28 février. Tout de suite, les médias, Sonia Devila et son Instant M, retour sur l'actualité. On parle de médias russes et d'armes de propagande, Sonia.